Amen. Et prêt à t'obéir. C'est votre prière vraiment? Vous êtes heureux si vous pouvez dire oui, je veux être prêt à t'obéir Seigneur. Alors nous allons voir plusieurs textes. Je vous encourage pour notre édification personnelle, pour votre édification, à noter ces textes qui vous permettront dans vos cultes personnels vraiment de faire des progrès dans ce que nous avons évoqué au travers de ces chants. Vous savez, je vais faire la conclusion de dimanche en fin de compte. Alors on va partir de Job justement qui a donné ce témoignage par rapport à l'épreuve. Dans Job au chapitre 23, il parle de cette épreuve qu'il est en train de traverser. Et on est tous confrontés à des épreuves, tous. On est bénis et on est éprouvés. Et si on accepte bien la bénédiction et si on accepte bien l'épreuve, on avance, on fait des progrès et on reste fidèle. Job chapitre 23, ça correspond vraiment au dernier chant que l'on vient de chanter ensemble. Voilà, il parle de son épreuve et regardez ce qu'il dit. Job 23, verset 10. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. » Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Vous avez vu le désir de cet homme, de ce frère. Il dit, voilà, moi dans l'épreuve, il y a une chose qui m'intéresse. Il vivait ce que l'on vient de chanter, je veux sortir pur comme l'or. On va passer quelques livres, on va aller dans le livre d'Ésaïe, relire cette parole qu'on a lue il y a quelques semaines, Ésaïe 45, verset 5. N'oublions pas que l'adversité vient souvent de Dieu. Elle peut venir... Vous vous rappelez? J'avais parlé de l'origine de l'adversité. Vous vous rappelez ce que j'avais dit il y a un mois à peu près? Tiens donc, c'est intéressant. Qu'il y avait trois sources de l'adversité. Vous vous rappelez? Comment? Il y a trois sources d'adversité. L'adversité peut venir de Dieu. Elle peut venir du diable. Elle peut venir de nous, de notre propre péché. Alors, si on ne discerne pas trop quand elles viennent de Dieu ou du diable, ce n'est pas grave. Par contre, on devrait être assez intelligent pour savoir quand elles viennent de notre propre faute. Ésaïe, chapitre 45, verset 5. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. » Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, on en déduit que Dieu permet l'adversité dans notre vie. Alors, on va retourner dans le témoignage de l'apôtre Paul qui est confronté à cette adversité terrible qu'il a dû endurer toute sa vie dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Il est à même de recevoir vraiment des révélations qui vont lui permettre d'écrire la moitié du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous réalisez combien cet homme a été utilisé par Dieu. Vous trouvez que c'est bien d'avoir été utilisé par Dieu pour écrire la moitié du Nouveau Testament? Vous trouvez que c'est bien? Ben quand même. Donc cet homme était précieux aux yeux du Seigneur, donc Dieu l'empêche de s'enorgueillir. On a parlé de ça donc dimanche matin, 2 Corinthiens chapitre 12. Pour ceux qui n'étaient pas là, on va partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Regardez ce qu'il dit, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. On pourrait donner cette comme titre, ça me vient à l'esprit maintenant, la puissance dans la faiblesse, ou de la faiblesse. Les deux pourraient être d'accord. Alors, nous discutions ce matin avec mon épouse de la prédication de dimanche matin, mais elle me disait, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Parce qu'après tout, c'est vrai que des fois, on utilise des mots, mais on ne donne pas forcément la définition. Alors moi, j'ai pris la définition dans le dictionnaire, sentiment exagéré de sa propre valeur. estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et ça, Dieu n'en veut pas. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Il dit qu'il hait l'orgueil. Il haït l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'orgueil. D'ailleurs, vous connaissez le verdict. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Ce qui a fait chuter Satan, c'est l'orgueil. Et chaque fois que vous voyez des hommes pétris d'orgueil dans la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que c'est le début de la fin. Donc, nous devons veiller à cela. Si Paul avait de la valeur, eh bien, nous aussi, nous avons de la valeur. J'expliquais dimanche que même si l'éternité d'une personne dépend de notre témoignage, ça vaut la peine que nous restions humbles. Oui ou non ? Il faut le comprendre, ça. Nous, bien sûr, qu'on aura le réflexe de dire « Mais moi, je ne suis pas l'apôtre Paul, je ne vais pas me comprendre. » Et c'est vrai, en plus. Mais si l'éternité d'une âme dépend de notre témoignage, je peux vous dire que Dieu va se charger de nous faire rester humbles, croyez-moi. Donc, on va parler de cette puissance dans la faiblesse. Vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Vous la connaissez, cette histoire ? Qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath ? Même les païens connaissent cette histoire. L'histoire de David et Goliath nous enseigne beaucoup sur cette affaire. Parce que quand même, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Comment il était, David ? Qui c'était à l'époque ? C'était un jeune berger, un adolescent. La Bible dit que c'était un adolescent. Et ça s'est passé dans un contexte un peu particulier où Dieu a choisi David. Est-ce que c'est Dieu qui a choisi David ? C'est Dieu qui a choisi David. Bon, dans cette histoire, il y a un contexte. Et je pense que c'est bien parce qu'on parle de l'adversité, on parle de l'orgueil, on parle de la faiblesse. Mais c'est bien de prendre un texte pour comprendre comment Dieu prépare les choses. Alors, dans 1 Samuel, au chapitre 16, il y a le contexte. Le contexte, on en a parlé tout à l'heure, avant la réunion de prière, le contexte archi grave. Mais là, on va parler juste de... Au chapitre 16 du chapitre, au verset 16 du chapitre 17, chapitre 17, verset 16. Oui, on va lire juste un verset qui indique ce qui se passait dans cette vallée. Regardez bien, le Philistin, parce qu'on ne peut pas tout lire, mais vous pourrez le lire chez vous, on ne peut pas tout lire, ce n'est pas possible. 1 Samuel, chapitre 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, le matin et le soir, il répétait les mêmes paroles, vous le lirez, leur disant qu'ils étaient nuls, qu'ils n'avaient pas leur place en Israël, que ce n'était pas le peuple de Dieu. Enfin, on appelle ça du lavage de cerveau. Vous savez, mes frères et sœurs, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et quand on réfléchit à cette histoire, il ne s'est pas du tout battu, en fin de compte, de Goliath. Il n'a fait du mal qu'avec des paroles. Matin et soir, 40 jours, il répétait qu'ils étaient nuls, qu'ils valaient rien, que Dieu les avait abandonnés. Enfin, vous regarderez tout ce qu'il disait, alors que ce n'est pas vrai. Et combien de chrétiens aujourd'hui se sentent nuls, disent, ouais, l'Église, vivement que Jésus revienne. Oui, d'accord, mais est-ce que l'Église a toujours sa place sur la terre ? Eh bien, bien sûr. Et quand vous projetez les insultes du Philistin sur le peuple d'Israël, vous vous rendez compte que les choses n'ont pas beaucoup changé. Et que le diable, il fait tout, mes frères et sœurs, pour nous démunir et nous décourager. On a pris à l'introduction du jeûne et prière tout à l'heure le texte, le contexte dans lequel ça s'est passé. On va le relire. Regardez bien. Parce que vous savez, il y a des choses, il faut les expliquer. Dans 1 Samuel, au chapitre 13 et au verset 24, la préparation de cette guerre commence. 1 Samuel, chapitre 13, verset 24. Regardez, mais il faut les lire ces choses et étudier. Je vous encourage à le faire, à lire ces chapitres. Voyez, regardez, un poste de Philistin vient s'établir au passage de Michmash. Donc c'est le départ. Comment les choses sont mises en place ? Les Philistins vont tout faire pour faire la guerre à Israël. Mais regardez bien maintenant le contexte du contexte. Et je ne fais pas de jeu de mots. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. Parce que vous savez, il faut comprendre comment Dieu va s'y prendre pour changer les choses. Regardez bien. 1 Samuel 13, 19. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Regardez bien. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Et il ne faut pas s'étonner que l'ennemi a provoqué une préparation de guerre et il s'était arrangé au préalable pour faire en sorte qu'aucun homme n'ait une arme. Vous avez vu le contexte? Alors ça, vous n'y faites pas attention, c'est bon, c'est le travail des pasteurs, c'est clair. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Parce qu'on ne peut pas parler de l'adversité sans tenir compte des ruses de l'ennemi. Combien le diable, il fait tout pour que nous soyons désarmés. Pour que nous n'ayons pas d'armes, pour que nous soyons minables, pour que nous ne soyons même pas capables de combattre. Il y a des chrétiens qui ne lisent plus la Bible, ils n'ont pas d'épée. Et quand la guerre se présente, eh bien, ils sont complètement démunis. Et rien que des mots, des paroles suffisent pour les décourager. Vous avez vu le Philistin, il avait paralysé toute l'armée. Toute l'armée était paralysée. Et Dieu, dans son immense souveraineté, eh bien, va provoquer cette fameuse histoire que l'on connaît sous tous les angles, que tous les enfants de l'école du dimanche connaissent, cette histoire de David et Goliath. Mais cette histoire, elle n'est pas faite que pour les enfants de l'école du dimanche. Elle est faite pour que les chrétiens comprennent que Dieu est souverain et qu'il sait ce qu'il veut faire. Parce qu'après tout, bon, on voit le contexte, on voit une armée paralysée, qui n'a pas d'épée. Parce que là, vous lisiez, peut-être vous n'avez jamais fait attention. Imaginez, d'un côté, les Philistins armés jusqu'aux dents. Vous avez vu comment Saül était armé. Pas Saül, Goliath était armé. Vous le lirez. Ça fait peur, on se demande comment il pouvait bouger et porter autant de ferrailles sur lui. En fait, c'était quand même une drôle de montagne. De l'autre côté, l'armée d'Israël, sans aucune épée, à part le roi et son fils, qui était autant paralysé que les autres, de toute façon. Et d'un autre côté, un adolescent qui arrive sur le champ de bataille. Et des soldats avaient des bâtons. Le peuple d'Israël avait des bâtons. Ça fait pitié quand même. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Ils sont chez eux quand même. Hein, ils sont chez eux et ils ont comme armes des gourdins et des bâtons. Peut-être quelques fourches, je ne sais rien. Quelques râteaux. Mais c'est comme ça qu'on pourrait présenter-le. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Le peuple de Dieu. Donc, d'un côté, on voit cet adolescent qui descend, il n'a rien, et cette montagne armée jusqu'aux dents. Donc, un peuple paralysé par des paroles. Vous savez, on peut paralyser quelqu'un par des paroles. Le grand prophète Élie a été pétrifié par les paroles d'une femme. Regardez Pierre, quand il a renié Jésus, ce n'est pas par les gardes qui sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémané, c'est une femme dans la cour de l'armurerie, là, qui a juste dit « mettez pas un d'eux aussi ». C'est sur les paroles d'une femme que Pierre a renié Jésus. Le mal qu'on peut faire avec la langue. Vous lisez le livre de Jérémie et vous êtes étonné quand vous voyez qu'il se concerte pour dire « venez, tuons-le avec ». La langue, on peut faire du mal avec des paroles. Vous le savez qu'on peut faire du mal? Et c'est pour ça qu'il faut veiller sur ces paroles. Et entre nous, être des sources de bénédiction et faire du bien aux gens. Et bénir les gens. Vous aimez bénir les gens? Ben vous êtes heureux si vous aimez les bénir. Mais comment on sait qu'on peut faire du mal? Dans un couple, un homme il peut faire du mal à sa femme et vice-versa. On sait très bien ce qui peut blesser quelqu'un. Je dis ça parce qu'il faut en tenir compte pour comprendre l'adversité. Je ne peux pas vous parler de l'adversité qu'en parlant de l'adversité. Il faut que nous comprenions le contexte dans lequel ça se passe. Parce qu'après tout, il y a des questions qu'on doit se poser. Après tout, pourquoi Dieu a-t-il utilisé David? Est-ce que Dieu aurait pu utiliser... Vous allez me dire que je suis bête, que je prends des exemples bêtes, mais ça ne fait rien. Est-ce que Dieu aurait pu utiliser le meilleur soldat d'Israël, parce que même s'ils avaient que des bâtons et des gourdins, est-ce qu'il y avait dans l'armée d'Israël peut-être un type qui faisait 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10? Il y en a des soldats comme ça, armés, un gaillard courageux, et il se serait battu avec Goliath pendant, je ne sais pas, mais on le voit ça dans des films, il se serait battu pendant un quart d'heure, un combat acharné. On l'a déjà vu ça, que le plus faible gagne le plus fort, oui ou non? Dieu aurait pu permettre que le plus fort et le plus grand, le plus costaud des soldats d'Israël prennent l'arme du roi et aillent se battre contre Goliath et qu'il gagne. Oui ou non? Bon. Mais Dieu, n'oubliez pas que tout ça c'est pour nous enseigner et qu'on a besoin de comprendre, Dieu décide de prendre un adolescent pour donner la victoire à Israël. Moi je trouve que c'est extraordinaire. Dieu n'a pas choisi donc le soldat le plus fort, Dieu a choisi un garçon qui n'était même pas un soldat, qui n'avait aucune formation militaire, qui n'avait aucune conception de la guerre, qui n'avait même pas d'armes. Et on le voit ça dans la parole de Dieu, des gens qui ont fait des choses extraordinaires sans armes. Samson, il a tué 1000 Philistins avec quoi comme arme? Une mâchoire. Moi, que je sache, dans les armureries du monde, j'ai jamais vu comme arme une mâchoire. Une mâchoire, c'est pas une arme. Quand on voit, comment il s'appelle, Jephté, oui, avec un aiguillon à bœuf. Un aiguillon à bœuf, vous savez ce que c'est? C'est un bâton avec une pointe au bout. Il a donné la victoire à Israël avec une branche pointue. Ce n'est pas une arme. Et on pourrait prendre les exemples. Mais quand un homme est rempli du Saint-Esprit, Dieu peut utiliser ce qu'il a dans ses mains. Mais Dieu veut nous enseigner des choses. Quelqu'un comme David, humainement, il avait aucune chance de remporter la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, il le dit très bien. Regardez 1 Samuel 16, 37. David, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est dans une obéissance totale. Regardez cette humilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien sûr qu'on connaît la fin. Mais à ce moment-là, Goliath, il a toujours la tête sur les épaules. Hein. 1 Samuel 17, verset 37, David dit encore, il essaie de communiquer cette foi aux autres. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez, il le dit, l'Éternel est avec moi, Dieu me délivrera. Vous pouvez le dire ça en fait, que Dieu vous délivrera dans les difficultés que vous rencontrez. Oui, donc, Dieu sait ce qu'il fait. Et ces histoires, vous savez, elles ne sont pas là juste pour qu'on ait des beaux enseignements pour les enfants. Elles sont là pour nous expliquer que Dieu peut manifester sa gloire avec des gens qui sont faibles. Vous comprenez? C'est ça l'enseignement. Et on l'a lu, l'apôtre Paul donne le même témoignage. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ce sont des gens qui dépendent de Dieu. C'est vrai que Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un de fort? Ben bien sûr, Dieu il est souverain. Comme je vous l'ai dit, il aurait pu prendre le meilleur des soldats, le plus costaud, le plus fort, le mieux armé, pour donner la victoire. Mais il veut nous enseigner quelque chose, qu'il est glorifié lorsque les faibles obéissent. Il est glorifié. Lorsqu'il utilise ce qui est faible, sa puissance se manifeste. C'est évident. C'est évident. Et une des raisons pour laquelle Dieu permet l'adversité, c'est ça. C'est nous appuyer, c'est nous enseigner à nous appuyer sur sa force et non sur la nôtre. Est-ce que vous êtes fort? Est-ce que c'est important que vous soyez fort? Non, ce n'est pas important. Il faut compter sur la puissance de Dieu et sur sa grâce. Sur sa puissance seulement. Ne dites pas, oh je suis fort, là je vais pouvoir faire des choses merveilleuses pour Dieu. Non, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous dépendions de lui. Et la victoire d'Israël dépendait d'un jeune homme qui était obéissant, qui était faible, complètement faible, parce que c'était qu'un ado, je ne sais pas si vous rendez compte. D'ailleurs, quand il est arrivé sur le champ de bataille, je ne sais pas si vous vous rappelez ses frères, qui avaient déjà été rejetés par Dieu à cause de leur orgueil. Il y a un frère qui a essayé de le décourager, en lui disant, oui, c'est à cause de l'orgueil, c'est de ton cœur que tu es venu voir la bataille, tu as voulu voir la bataille, alors que lui, il ne faisait qu'obéir. Vous savez, on a vite fait aussi de nous décourager. Les gens ont vite fait de nous traiter d'orgueilleux alors que ce n'est pas vrai. Oui, c'est écrit ça. Je sais que vous le savez que je regardais 1 Samuel 17, verset 28. Regardez bien. Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et lui dit, « Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. » Vous avez vu? Alors que je peux vous dire que c'est exactement l'inverse. « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Oui, des fois, entre frères, ça chauffe. Hein. « C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Qu'est-ce que fait David? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna. Il n'a pas écouté son... C'est pas la peine de discuter avec des gens à histoire. Évite les discussions vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et Eliab le traite d'orgueilleux. Et c'est vrai que même dans le peuple de Dieu, il peut y avoir des gens qui veulent nous décourager avec des paroles difficiles. Je peux vous dire qu'Eliab, c'était lui qui était orgueilleux. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu a choisi David dans la maison d'Isaïe, Dieu dit en parlant d'Eliab, je l'ai rejeté. Quand Dieu rejette quelqu'un, en principe, on sait pourquoi c'est. Donc, apprendre à dépendre vraiment de Dieu, même quand on est faible, dire Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui te glorifies. Parce que quand vous lisez la vie de Paul, on revient à Paul, vous avez lu les épîtres, vous avez lu l'épître aux Romains, vous avez lu les épîtres, Paul parle de ce qu'il a vécu. Est-ce que vous avez l'idée d'un homme faible quand vous lisez l'histoire de Paul? Parce qu'il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais quand vous lisez, on n'a pas le temps, mais faites-le quand même. Lisez, entre guillemets, la biographie de Paul dans ses épîtres. Est-ce que vous avez l'idée d'un homme faible en lisant les épîtres? Non. Quand vous regardez cet homme, vous dites quand même, il y a quelque chose. Justement. Parce qu'il réagissait de cette façon-là. Il ne dépendait pas de ses forces, il ne dépendait pas de son intelligence. Est-ce qu'il était intelligent, Paul? Oui, il était intelligent. Est-ce qu'il était instruit? Oui, c'était quelqu'un. Mais il ne dépendait plus de ça. D'ailleurs, Michael nous l'a rappelé tout à l'heure quand il a essayé de nous faire chanter. Il nous a dit qu'il avait tout rejeté. Tout rejeté, qu'il ne faisait qu'une chose, chercher à connaître Dieu. Eh bien, c'est ces réactions qui nous montrent que l'on peut rester fort dans la faiblesse. On va lire une histoire. Vous connaissez l'histoire de Paul quand il est arrivé à Philippe. Il arrive à Philippe. C'est important parce qu'il faut comprendre. C'est comme la définition de l'orgueil. Si je vous dis c'est quand je suis faible que je suis fort, pour certains, ça ne veut absolument rien dire. Il obéit. Actes chapitre 16. Il obéit. Et comme il obéit, il se retrouve en prison. Vous voyez comme quoi l'adversité, même quand on obéit, hein. C'est pas le premier à se retrouver en prison parce qu'il obéissait à Dieu, croyez-moi. Actes chapitre 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, dans une prison à l'intérieur de la prison, dans les caves sans fenêtres, et leur mit les ceps aux pieds. N'oubliez pas, ils venaient de se faire tabasser. Ils étaient emprisonnés avec des plaies dans une prison sans fenêtre. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas rédigeaient un fax pour l'action missionnaire afin de démissionner. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, je fais pas gaffe, c'était la version d'aujourd'hui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vous connaissez la suite. Comment ça a plu à Dieu? Vous êtes d'accord? On n'a pas l'idée d'un homme faible. On a l'idée d'un homme qui connaît Dieu. C'est pas cette histoire que je voulais surtout que vous reteniez. C'est ce qu'il en dit quelques mois après quand il se trouve à Thessalonique. Quand il écrit aux Thessaloniciens. Regardez avec moi. C'est pour comprendre l'idée de la faiblesse. L'idée de la faiblesse, c'est la dépendance de Dieu. Donc, c'est dans les Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. Oui, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Regardez ce qu'il dit de cette affaire. Il n'y avait rien de plus injuste. Il obéit à Dieu et il se retrouve en prison, blessé. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il chante des cantiques. Regardez bien maintenant. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Regardez bien, mes frères et sœurs. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, donc il fait allusion à ce qu'il a vécu dans cette fameuse prison, alors, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Voilà comment il parle de cette expérience. Il a souffert, il le dit, il a souffert. Il s'était blessé quand même, enfermé. Mais ils ne dépendent pas de leur force. Ils dépendent de Dieu. Et ce que Dieu veut nous enseigner, c'est cela. C'est que, où que nous soyons, quel niveau nous en sommes aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre, c'est dépendre de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu enlève Paul au troisième ciel pour parler des choses spirituelles avec lui, avec Dieu. Vous trouvez que c'est bien? Il était tellement soucieux de la doctrine que Dieu l'a enlevé au troisième ciel. Bon, c'est quand même une drôle d'histoire. Hein. Et il en parle avec Dieu. Est-ce qu'il aurait pu s'enorgueillir? Ben oui. Donc, quand il redescend, Dieu va s'occuper de lui. Alors c'est quoi le plus important, la guérison ou l'infirmité de Paul? C'était quoi le plus important, que Dieu le guérisse ou qu'il reste infirme toute sa vie? C'est ça, parce que c'est ça l'adversité. Est-ce qu'il parle de ça comme une infirmité? Est-ce qu'il dit c'est à cause de cette infirmité? Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez prié pour qu'il soit guéri ou vous auriez prié pour qu'il reste infirme? Parce qu'il faut, et voilà, c'est sûr que vous n'entendrez pas ça souvent dans les prédications, ça c'est sûr. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous avez écrit, écoute, voilà, j'ai des problèmes, je ne vois pas bien, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à écrire, il me faut quelqu'un pour écrire, prie pour moi, pour que je puisse écrire mes lettres. Et on aurait prié. Mais Dieu lui avait répondu, ma grâce te suffit. Et ma puissance se manifestera dans la faiblesse. Donc il est resté infirme jusqu'à la fin. Et je dis infirme parce que lui, à deux reprises, parle de cette affaire comme d'une infirmité. Quand il écrit aux Galates, il leur dit « C'est à cause d'une infirmité que je suis venu vers vous, prêcher l'Évangile. » Donc il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, que nous, il ne faut pas nous focaliser sur la guérison. Bien sûr qu'il faut croire que Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Vous le croyez que Dieu guérit? Bien sûr, mais... Est-ce que vous pensez que c'était utile que Paul reste humble jusqu'à la fin de sa vie? Est-ce que ça valait la peine que Paul reste humble toute sa vie? Ben quand même. Mes frères et sœurs, soyons intelligents. La faiblesse, ça ne veut pas dire que je suis faible, point barre, et que voilà, c'est comme ça. Non, non, non. Il y a vraiment un esprit d'obéissance dans la faiblesse. Nous voulons que Dieu combatte pour nous. Vous savez, cette prédication, je pourrais la conduire de telle sorte de ne parler que de la faiblesse. Mais ce matin, hier soir, quand je priais, je sentais vraiment dans mon esprit qu'il faut que je fasse très attention, parce qu'il y a des gens, si on ne parle que de la faiblesse, qui vont interpréter la faiblesse comme tolérer le péché dans sa vie. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Paul ne tolérait pas le péché dans sa vie. C'est facile de dire, ah, quand je suis faible, je suis fort, voilà, je vis dans le péché, le Seigneur le sait. Mes frères et sœurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La faiblesse, c'est que je ne dépends pas de mes forces. La faiblesse, c'est que je ne m'appuie pas sur ma force. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Je ne m'appuie pas sur mes capacités. Je ne m'appuie pas sur moi. Je ne m'appuie que sur la grâce de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Paul réagissait d'une manière intelligente. Et c'est ça que Dieu attend. Parce que ce qui intéresse Dieu, qu'est-ce que c'est qui intéresse Dieu? Qu'est-ce que c'est qui intéresse Dieu en fin de compte? Notre intelligence? Nos capacités? Ou notre obéissance? Et voilà. Parce qu'on peut se demander, mais quand même, comment comprendre l'affirmation de Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort, avec tout ce qu'il a accompli, comment concilier tout ça, mais tant il dit qu'il est faible, il a fait des choses extraordinaires, il a bouleversé le monde, c'est des gens qui le disent. Avec Paul et Silas, par Paul et Barnabas, il est écrit qu'ils ont bouleversé le monde. C'est pas l'image d'un homme faible, ça. C'est écrit ou c'est pas écrit? Où c'est que c'est écrit qu'il avait renversé le monde? Dans les Actes. Ils disent, mais on va le lire quand même, parce qu'il faut, mes frères, acte 17. C'est, moi, c'est des témoignages, moi, qui me bouleversent. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire il était faible. Oui, il était faible. Il ne dépendait pas de ses forces. Attendez, c'est bien ça? Oui. Acte 17, verset 6. Regardez bien, mes frères et sœurs. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et souvent, ils voyageaient à pied. Acte 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en disant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Vous vous rendez compte? Bien sûr, ce n'est pas l'idée de quelqu'un de faible quand on lit ça. Mais lui, il disait « Je suis faible ». Il dépendait de Dieu, mes frères et sœurs. C'est quand je suis faible, alors je suis fort. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Il vivait vraiment dans la grâce de Dieu. Il commence toutes ses épîtres. Chaque fois qu'il écrit, Paul, il dit que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Il vit dans la grâce de Dieu. Il vivait par la grâce. Il connaissait la grâce de Dieu. Parce que des fois, on articule sur la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, d'accord. Mais la foi sans la grâce, ça sert à quoi? À quoi ça sert la foi sans la grâce? À rien. Moi, je le pense. Hein. David, il a eu la foi pour tuer le géant, d'accord? Mais est-ce que c'était pas la grâce de Dieu aussi? Oui ou non? Donc la foi sans la grâce, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Il vivait dans la foi, il vivait dans une vraie confiance. Il savait que le Seigneur était avec lui, c'est pour ça qu'il pouvait dire, oui, te connaître. Je veux le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. Il voulait connaître le Seigneur. Ce n'était pas de la doctrine, ce n'était pas des formules, c'était sa vie. D'ailleurs, il le dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'était sa vie, mes frères et sœurs. Quand il a dit, et il a reçu cette parole de Dieu, « Ma grâce te suffit », c'était vraiment une expérience. « Seigneur, moi j'ai besoin de ta grâce. Je veux dépendre de ta grâce. » Vous savez, les gens, presque tous les chrétiens du monde, sont émerveillés devant le psaume 23. C'est pas vrai? J'ai entendu des centaines de fois, « Oh, monsieur Gaulle, le psaume 23, c'est mon psaume préféré. » Et pourtant, ils auraient dû changer les paroles. Et à la place de mettre « L'Éternel est mon berger », ils auraient dû dire, c'est moi le berger et c'est Jésus le petit mouton. Parce que quand Dieu est notre berger, il est dit au verset 4, il restaure mon âme. Et si Dieu ne nous restaure pas notre âme, écoutez, ne lisons même plus ce psaume, ça ne sert à rien. L'Éternel est notre berger si notre âme est restaurée. Si je me dis, oui, je veux absolument que mon âme soit restaurée. Et vous avez vu comment ce psaume termine? David dira, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il vit dans la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est important de comprendre la faiblesse. Parce que je vous assure que Dieu m'a repris quand j'ai préparé cette étude. Que je ne vous amène pas à un comportement sentimental, émotionnel, paresseux, en disant, ben ouais, mais c'est très bien, ça me convient très bien, quand je suis faible. Non, Paul était peut-être dans ce témoignage extraordinaire, mais il était dans l'obéissance. Il vivait dans l'obéissance. Le témoignage de David était dans l'obéissance. Revenons à cette affaire quand son frère l'a traité d'orgueilleux. Qu'est-ce qu'il faisait, David? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que comment Dieu a conduit les choses? Dieu a conduit les choses, c'est là que peut-être on pêche. Comment Dieu a conduit David à se retrouver au fait dans la vallée des térébentes? 1 Samuel chapitre 17, verset 17. Mes frères et sœurs, c'est les clés, ce sont des clés, ça. Alors, comment ça a commencé, cette fameuse histoire? 1 Samuel 17, 17. Ésaïe, d'un papa, le papa de David, lui dit, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis, ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. » Donc moi j'ai calculé ça fait 30 kilos. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa ses brebis à un gardien, prit sa charge de 30 kilos et partit, comme Esaïe le lui avait ordonné. J'ai été en Israël et j'ai voulu faire ce voyage de Jérusalem à la vallée des Térébintes. Il y a 30 kilomètres aussi. Et moi, c'est une histoire qui m'a toujours ému parce que je sais que c'est parti de l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La faible, dire « je suis fort quand je suis faible », c'est très facile. Mais David, il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il était dans la volonté de Dieu. Parce que c'est bien joli que Dieu nous appelle quelque part, que Dieu nous amène quelque part. Mais il a obéi. Il n'a pas dit à son père « attends, mais je ne vais pas prendre 32 kilos de fromage et du pain, en plus mes frères, ils m'énervent. » Parce que là, je peux vous dire qu'entre frères, ce n'était pas le grand amour. Hein. Vous l'avez vu, le peu qu'on a vu. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand Samuel est venu pour oindre David, ils n'ont même pas fait venir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'ont même pas fait venir David qui gardait les moutons dans les champs, pour vous dire comment ils le méprisaient. Cet enfant, ce jeune enfant blond et beau de figure, et blond, dans les commentaires, que tous les commentaires que j'ai lus, ça veut dire que les autres, ils n'étaient pas blonds. Et que si lui, il n'était pas blond, est-ce que c'était vraiment le fils d'Isaïe? Vous savez, on a vite fait de dire dans une famille, et c'est vrai, s'il y a six bruns et l'autre qui est blond, on peut dire, tiens, c'est bizarre. Hein. Non mais, ça vous fait rire. Mes frères et sœurs, quand on en arrive à un mépris pareil, mais David, lui, il a obéi. Mes frères et sœurs, vous savez, l'adversité, c'est un sujet sérieux. Le brisement, les problèmes, quand je sais qu'il y a peut-être plus de rétrogrades que de chrétiens à cause de cette affaire-là, parce qu'on n'a pas compris l'adversité. Oui ou non? Vous le savez d'ailleurs, vous n'en connaissez pas des rétrogrades? Vous n'en connaissez pas que de trop? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'adversité. David, lui aussi, il obéissait. Paul obéissait. Son père lui dit, écoute, demain, tu vas dans la vallée des Térébintes et tu amènes tout ça à tes frères et aux chefs de l'armée. Voilà. Il se lève de bon matin, vous avez vu, il se lève de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. Ça nous indique que quand on a des responsabilités, il faut savoir déléguer. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et on perçoit, c'est vrai que c'est très succinct, mais ça suffit pour comprendre comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui est faible. Faible, mais obéissant. Faible, mais soumis. Il aurait pu dire à son père, écoute papa, tu te souviens quand Samuel est venu, tu m'as laissé dans les champs, eh bien écoute, il se débrouille les frangins, ou t'envoie quelqu'un. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ferait ça aujourd'hui? Sérieusement, franchement, il n'y en a pas qui dirait, non mais attends, tu te rappelles il y a 3 semaines? Eh bien écoute, s'ils veulent manger du fromage, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, attention. Attention à ne pas être méprisant, insoumis, s'autoriser à dire « eh bien, c'est leur problème ». On entend souvent ça aujourd'hui. « Eh bien, c'est son problème, qui se débrouille ?» Et mes frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. La faiblesse, Dieu l'a béni. Lorsqu'on vit dans la soumission, il a écouté son père qui n'avait pas été des mieux avec lui, croyez-moi. Si vous avez toujours votre père, si vous avez toujours votre mère, vos parents, obéissez-leur. Parce que Dieu peut vous utiliser au travers de quelqu'un de pénible. D'ailleurs, quand on voit le pasteur qui a formé David, c'était pas facile. Vous comprenez ce que c'est, hein? Vous avez vu comment il a été formé, David? Par qui il a été formé, David? Pas pendant 3 mois, pendant des années, par un fameux Saül qui était un vrai psychopathe. Oui ou non? Il n'a rien dit. Parce que moi, je ne voudrais pas vous expliquer ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si nous ne sommes pas obéissants, si nous ne sommes pas soumis, si nous ne savons pas nous rendre humbles le Seigneur ne nous utilisera pas. Parce que quand même, ça s'est passé inopinément. David arrive là avec, je ne sais pas si on est compte, il arrivait, il n'avait rien. Il avait un sac à dos, enfin je ne sais rien, peut-être c'est sur un bourricot, il avait son fromage, ses pains, etc. Et il arrive sur le champ de bataille. Moi, j'ai été dans cette vallée. Parce que Jonathan, vous ne savez pas, une parenthèse. Quand on était à Tahiti, j'étais dans un moment de découragement terrible. Terrible. Mais j'ai fait des expériences avec Dieu formidables. Et un jour, j'étais découragé, j'étais épuisé, et j'étais là en train de lire l'histoire de la croix. Comment je suis découragé? Je lis Gethsemane. Et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais aller à Golgotha? Qu'est-ce que j'aimerais aller à Golgotha? Vous voyez, comme j'étais à Tahiti. Hein? 3 jours après, je reçois un courrier. Monsieur le pasteur, on cherche un représentant des extrémités de la terre pour venir dans une convention internationale à Israël pour parler, etc. Enfin, un truc bon. Puis moi, je ne me suis pas rappelé. Puis 8 jours après, je reçois de nouveau un fax. Je dis, voilà, monsieur Go, on cherche un pasteur. Et puis, comme si le Seigneur me disait, mais qu'est-ce que tu m'as demandé? Donc, je suis parti en Israël. Et quand je suis parti à Israël, j'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous ramène? Et Jonathan, qui était tout petit à l'époque, il me dit, papa, je voudrais que tu me ramènes la pierre avec laquelle David a tué Goliath. J'ai dit, écoute, j'ai rien dans la vallée des Térébintes. Tu t'en souviens, Jonathan? Non, mais moi, je m'en souviens. Et donc, j'ai ramené des galets. Voilà. Et je tenais à y aller. Pour moi, c'était important d'y aller. Mais j'ai compris vraiment, j'ai compris en lisant ces histoires, que Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse quand on est obéissant. Vous entendez, mes frères et sœurs? Parce que ne jouons pas avec la parole de Dieu, ne soyons sérieux. Et vous avez vu, il arrive sur le champ de bataille, je sais pas, il n'a rien. Il a juste dans sa poche une fronde. Mais Dieu a manifesté sa puissance avec un adolescent qui avait une fronde, mais qui était dans l'obéissance. Parce que je peux vous dire que si David n'avait pas été obéissant, cette histoire n'aurait pas pu se passer. Et ne nous imaginons pas que nous ressemblerons à David ou à qui que ce soit si nous ne vivons pas dans la soumission, dans l'obéissance, même si les commandements, les ordres des gens qui sont au-dessus de nous, parce que c'est facile de dire « Ah, mais moi, j'obéis qu'à Dieu, j'obéis pas aux hommes, mais moi, j'obéis qu'à Dieu. » Mes frères et sœurs, ça c'est pas sérieux. Parce que Dieu peut nous tester au travers des gens qui sont au-dessus de nous. Oui ou non? Et mes frères et sœurs, soyons sérieux. Et la puissance de Dieu se manifestera dans la faiblesse. Parce que c'est une faiblesse qui est liée avec la soumission, l'humilité et l'obéissance. David a obéi. Alors mes frères et sœurs, je veux vraiment terminer avec cette affaire de vivre dans cette obéissance. Parce que vous savez, il est dit dans la Bible, c'est Jésus qui parle, il dit, mais il n'est pas dit « heureux ceux qui s'apitoient ». Parce qu'il y a des moments, c'est difficile l'épreuve. C'est difficile, il faut être sérieux quand même. À des moments, on pleure. Ça peut arriver de pleurer. D'ailleurs, Jésus ne dit pas « heureux ceux qui s'apitoient sur eux-mêmes ». Il dit « heureux ceux qui pleurent ». Parce qu'entre pleurer, parce qu'on déverse son chagrin, ce qui est tout à fait sain, mais entre s'apitoyer, ce n'est pas la même chose. Alors, je peux pleurer parce que ça me fait mal, parce que je souffre. Parce que si, quand vous voyez les patriarches, tous les hommes de Dieu ont pleuré, même et Jésus, est-ce qu'il a pleuré? Bon. Mais faisons la différence entre les pleurs, qui sont sains, ça yenne, et l'apitoiement. Dieu ne s'apitoie pas sur nous quand on s'apitoie. Dieu, il nous bénit quand on pleure. Parce que ça fait du bien de pleurer. Alors mes frères et sœurs, soyons intelligents et puissions nous dire, Seigneur, moi je veux... Tu vois combien je suis faible, Seigneur. Mais que cette faiblesse soit comblée par ta force. Et Dieu manifestera sa grâce, Dieu manifestera sa bonté, parce que je vis dans l'obéissance. Parce que dimanche, j'ai beaucoup parlé de l'infirmité que Dieu permettait, mais il fallait conclure avec cette pensée. Vivre dans l'obéissance, vivre dans la soumission, vivre dans la dépendance, voilà, mes frères et sœurs, afin qu'au jour du combat, on ait des armes. Même si ce n'est pas des armes conventionnelles, même si c'est qu'une simple fronde ou une mâchoire d'âne, mais au moins que ce que j'ai, Dieu le bénira. Je n'ai pas grand-chose, Seigneur. Ça a bien fait rire Goliath un moment, cette fronde. Mais je peux vous dire que quand Dieu bénit, il bénit. Alors, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Je me sens même vide. Eh bien, ce vide, comble-le par ta force. Parce que je vous assure que Dieu n'en a rien à faire de notre intelligence, de nos capacités humaines. L'œuvre de Dieu, elle se fait par Dieu, en nous, qui agit librement, parce qu'on obéit, parce qu'on se soumet. Alors c'est ça qu'il faut avoir, il faut avoir de la sensibilité. Est-ce qu'on peut terminer en demandant à Dieu, « Mais Seigneur, mais éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur. » Quand je vous disais en introduction que certains ne savent même pas ce que c'est l'orgueil, ils sont incapables d'expliquer ce que c'est l'orgueil. Alors Seigneur, est-ce que vous êtes d'accord qu'on termine en priant? Vous voulez qu'on termine en priant? Seigneur, dans ma faiblesse, je veux obéir. Dans ma faiblesse, je veux me soumettre à ta pensée. Alléluia. Prions simplement, mes frères et sœurs. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous voyons bien qu'au travers de cette histoire de David, au travers de ton serviteur Paul, dans leur faiblesse, tu as enfoui ta force. Dans leur faiblesse, ils ont reçu ta vie. Seigneur, ces hommes, ils ont obéi, ils se sont soumis, se sont humiliés, et tu as pu faire ton œuvre. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Avec les petites armes que nous avons, ou avec même des armes qui n'en sont pas aux yeux des hommes, nous voulons malgré tout continuer à t'obéir. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que l'Église se retrouve comme l'armée de Saül quand la guerre s'est présentée. Nous voulons être armés de toutes les armes, de toutes tes armes. Nous voulons les prendre comme tu nous le demandes, toutes ces armes, afin de combattre dans les mauvais jours, afin de tenir ferme pour tout surmonter. Comme l'apôtre Paul a surmonté toutes ces épreuves en surmontant le mal par le bien, eh bien nous aussi, Seigneur, nous voulons surmonter. Et si nous n'avons pas ne savons pas quoi faire, eh bien nous voulons te louer et te bénir, comme ils l'ont fait dans cette prison à Philippe. Seigneur Jésus, enseigne-nous l'humilité, illumine les yeux de notre cœur, donne-nous ce bon sens afin de comprendre tous ces mots profonds dans ta parole. Enseigne-nous, oui, ce qu'est l'orgueil, ce qu'est l'humilité, ce qu'est la soumission, l'humilité, l'obéissance. Enseigne-nous ces choses, Seigneur. Oui, nous voulons terminer cette soirée en te demandant d'illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous sachions comprendre les choses spirituelles, que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. Vraiment, Seigneur, tu nous vois, nous sommes malheureux quand nous pensons à tous ces chrétiens qui ont rétrogradé. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour leur comportement. Nous te demandons pardon, mais nous te demandons de nous aider à les accueillir, parce que nous croyons que tu peux les ramener, que tu vas les ramener, tous ceux qui te cherchent et qui seront fortifiés à tous égards, comme tu l'as fait pour nous. Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Qui que ce soit qui sera au-dessus de nous, quel que soit le pasteur qui sera au-dessus de nous, les parents qui seront au-dessus de nous, les autorités qui seront au-dessus de nous, donne-nous, Seigneur, d'être humbles, obéissants et soumis. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.